appelle les populations à la vigilance. Une campagne de sensibilisation contre le choléra est également lancée sur les radios locales. La riposte contre la maladie est menée par les services locaux avec l'appui de l'OMS, UNICEF, MSF France et la coopération italienne, a indiqué le ministère nigérien de la Santé.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Épidémie d'Ebola en RDC, une conjonction de facteurs menace la réponse humanitaire selon l'Organisation mondiale de la santé.
L'OMS a fait savoir le 25 septembre dernier qu'elle avait suspendu ses activités à Beni après la tuerie d'une vingtaine de personnes. Nous sommes très préoccupés pour la sécurité de notre personnel, a-t-il ajouté, précisant toutefois que jusqu'à présent, le personnel de l'OMS n'avait pas été visé. Le 22 septembre, une attaque a eu lieu à quelques centaines de mètres du centre-ville de Beni et a fait 21 morts, 17 civils et 4 militaires, selon un responsable militaire qui a annoncé l'ouverture d'une enquête. Mais malgré l'insécurité, le gouvernement et ses partenaires dans la riposte ne partiront pas de la région du Nord Kivu, a rassuré le ministre congolais de la Santé, le docteur Oli Ilunga. Le 26 septembre, les activités de terrain de la riposte avaient repris timidement à Beni.
L'OMS craint par ailleurs l'arrivée imminente d'Ebola en Ouganda et a également souligné l'inquiétude face au niveau de résistance et de méfiance des communautés.
Tout à fait, Mamadou. Lors d'une conférence de presse le 22 septembre, Peter Salama, le directeur général adjoint de l'OMS chargé des réponses d'urgence, a prévenu qu'il était extrêmement préoccupé par plusieurs facteurs qui pourraient se réunir au cours des prochaines semaines ou mois pour créer une conjonction optimale de facteurs limitant leur capacité à accéder aux civils. Il cite l'exploitation de l'épidémie par des candidats aux élections de décembre et certaines personnes qui refusent d'être soignées dans les unités de traitement, fuyant dans les forêts et sur des centaines de kilomètres dans certains cas. L'OMS estime par ailleurs que l'Ouganda est maintenant confronté à une menace imminente d'être affecté par Ebola avec l'apparition de cas proches de la frontière à Chomia, près du lac Albert. Des vaccins ont été envoyés en Ouganda.
Merci Firmin pour toutes ces nouvelles.
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
Comme annoncé au début de ce programme, cette semaine, nous nous intéressons aux perdus de vue dans la lutte contre le VIH-Sida. Un perdu de vue est en général perçu comme celui ou celle qui n'est pas revenu en consultation depuis une certaine durée. L'autostigmatisation, la stigmatisation du personnel soignant, la peur d'être reconnu dans certains hôpitaux, les coûts de déplacement, le temps non productif passé dans le système des soins, l'absence d'amélioration de l'état de santé sont quelques raisons qui expliquent ce phénomène. Pour en savoir davantage, nous vous proposons les explications du secrétaire général du réseau Ouest africain, Israël Ganoué, est au micro de nos partenaires de Radio Côte d'Ivoire. Tout d'abord, il nous dit pourquoi de nombreuses femmes deviennent des perdues de vue.
En général, ce sont les femmes vivant avec le VIH qui viennent en CPN, donc en consultation prénatale, et qui sont suivies. Dans les circuits de soins, ce sont elles qui sont suivies. Donc, quand elles viennent pour faire leur CPN, normalement, on leur propose des tests et elles acceptent en général. Et quand on fait les tests, quand elles sont positives, elles doivent continuer normalement le programme de CPN et en même temps avec le suivi pour éliminer la transmission du VIH à l'enfant. Mais malheureusement, on observe que ces femmes-là ne vont pas au bout du processus. Et on se rend compte au milieu qu'elles ne viennent plus en CPN, elles ne viennent plus en consultation. Donc elles sont perdues de vue. C'est cela que nous appelons le phénomène des perdus de vue. Donc les femmes ne terminent pas le processus, on ne sait pas où elles se trouvent. Elles sont perdues dans la chaîne de prise en charge.
Justement, j'allais demander, est-ce qu'il y a un mécanisme qui est mis en place pour pouvoir les suivre de façon durable?
La Côte d'Ivoire parle de la rétention. Donc il faut faire en sorte d'améliorer la rétention. Et c'est ce que aussi l'ONU-SIDA encourage à la rétention. Donc il y a des programmes qui sont mis en place, il y a les organisations, les ONG, les personnes qui se chargent de consulter les registres pour voir si telle femme n'est pas venue à son dernier rendez-vous, ça fait 3 mois. En réalité, la définition de perdu de vue voudrait qu'on parle de perdu de vue seulement quand il y a 3 mois qu'on a vu la personne pour la dernière fois en consultation, il y a plus de 3 mois. Et donc quand la femme ne vient pas, on déclenche l'alerte et les personnes qui sont chargées de faire la prise en charge, il y a les appels. Souvent, on prend le numéro d'un proche, du conjoint et tout ça, et on essaie de l'appeler, de lui rendre visite. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont faites. D'ailleurs, même le but des entretiens, quand elles viennent en CPN, c'est de les maintenir dans les circuits de soins. Donc, les sages-femmes avec les conseillers ou les conseillers communautaires et tout ça, les suivent. Mais les conseillers même vont jusqu'à dans la communauté pour leur permettre de revenir. Voilà. Et souvent, quand on fait la recherche de perdus de vue aussi, les gens les retrouvent. Voilà, on les retrouve parce que on les appelle, on contacte les proches et tout ça. On les appelle, mais ce n'est pas toujours qu'on fasse comme on appelle ça, la recherche de perdus de vue, parce que c'est les programmes, c'est les projets qui sont mis en place, qui ne sont pas systématiquement mis en place, c'est dans les zones qui ont des projets de ce genre.
Monsieur Gangwe, est-ce qu'il y a une explication à ce phénomène des perdus de vue là, quand on arrive à retrouver certaines personnes ou d'autres même qu'on ne retrouve pas, mais est-ce qu'on a essayé de comprendre pourquoi ces personnes-là commençaient le traitement ou bien la consultation et puis n'allaient pas jusqu'au bout, jusqu'à devenir ce qu'on appelle les perdus de vue?
Oui, avant de répondre, je voulais commencer par dire d'abord que la Côte d'Ivoire enregistre vraiment des taux très intéressants, parce qu'on dit que les 90% des femmes enceintes ont déjà fait au moins une CPN, donc une consultation prénatale. Et on dit parmi les 90%, il y a 41% de ces femmes-là qui ont effectué les 4 CPN. Mais quand on regarde les femmes vivant avec le VIH enceinte, c'est 2 femmes sur 10 qui ne reçoivent pas d'ARV. Donc les taux, bon, je ne dirais pas sont encourageants, mais il y a beaucoup d'efforts qui sont faits.
En tout cas, il y a beaucoup d'efforts qui sont constatés.
Oui, qui sont vraiment constatés. Maintenant, comment on explique cela? Ce qui se fait, c'est que, en général, quand une femme est dépistée positive, il y a tout ce qu'il y a comme discrimination autour et tout ce que nous avons comme culture, coutume chez nous. Donc, il faut qu'elle aille chez sa mère pour accoucher au village, il faut qu'elle aille chez la mère de son mari pour pouvoir accoucher. Il y a que, lorsqu'elle est positive, elle ne veut pas qu'on la voie dans le centre qui est plus proche de sa maison, par exemple. Elle voudrait aller dans un autre centre qui est plus lointain et par moment, c'est la peur de la discrimination ou d'être découvert ou d'être peut-être dénoncé par les proches ou être accusé par les parents, la belle famille et tout ça. Donc c'est tout ce phénomène-là, toutes ces choses qui font que c'est une pression sociale. Et la personne aussi s'auto-stigmatise, oui, on va me découvrir et tout ça. Et la personne se cache et voilà, pour aller ailleurs et quitter le circuit de soins. Et souvent, certaines continuent. Dans d'autres centres, quand elles se déplacent. Mais par moment, il y a certaines femmes qui vont carrément au village, qui n'ont pas de contact avec les formes de prise en charge.
Elles coupent tout carrément avec tout le monde.
Oui, et c'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. D'accord. Donc voilà un peu la situation.
Alors, est-ce qu'on arrive à les réinsérer facilement lorsqu'elles sont retrouvées? Est-ce qu'on arrive à les réinsérer facilement dans la chaîne? C'est perdu de vue, là.
Oui, dans le temps, je me souviens que nous étions en train de faire un programme avec la coalition des organisations des femmes vivant avec le VIH, la COFSI, qui avait été appuyée par l'ONU-SIDA. Nous avons réussi à réintégrer pas mal de femmes, un bon pourcentage de femmes enceintes vivant avec le VIH perdu de vue et leurs enfants dans le circuit de soins. On arrive à les réintégrer. Mais comme je le dis, il n'y a pas toujours de programme approprié de recherche de perdu de vue. Mais si on avait des programmes comme ça qui couvraient tout le territoire, on allait pouvoir les retracer et les avoir. C'est vrai que par moment, elles donnent des faux numéros. On n'arrive pas à retrouver les 100%, mais on arrive à les avoir. Ce sont des programmes à encourager. Les organisations, les communautés doivent vraiment s'investir et mettre en place des programmes de recherche de perdus de vue pour améliorer la rétention des femmes enceintes vivant avec le VIH.
Est-ce que parmi les perdus de vue, il y a aussi des hommes?
Oui, bien sûr. Il y a les hommes qui sont perdus de vue, les hommes sous traitement qui sont perdus de vue. Je ne pourrais pas donner de pourcentage, mais c'est un phénomène qui est un peu généralisé. Mais en fait, bon, aujourd'hui, le taux n'est pas très élevé comme par le passé où il y avait la stigmatisation et la discrimination était très forte. Mais on observe quand même qu'il y a des perdus de vue chez les hommes sous traitement, qui se déplacent, qui ne vont plus à leur rendez-vous.
Qui ne suivent pas de bout en bout leur rendez-vous. Et...
Oui, oui. Mais c'est un phénomène qui tend quand même à la baisse. Mais les hommes continuent aussi de ne pas respecter leur rendez-vous. Et dans les centres de prise en charge, les registres des patients perdus de vue sont là, hein. Il y a beaucoup de régimes, il y a beaucoup de noms. Et en général, il faut des programmes, il faut qu'il y ait un projet en place où on prend les registres de tous les patients sous ARV pour voir ceux qui ont manqué leur dernier rendez-vous, ceux parmi eux qui ont déjà mis 3 mois sans venir en consultation pour qu'on puisse les retracer.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour stopper ce phénomène-là?
Il faut que nous, les acteurs, nous puissions bien faire notre travail pour faire un bon counseling, pour que les personnes vivant avec le VIH puissent accepter leur statut. C'est vrai que ça ne dépend pas toujours de nous, mais il faut que les personnes vivant avec le VIH, les personnes qui sont dépistées positives, puissent accepter leur statut. Il y a cela. Il y a le fait qu'il y a des questions de ressources aussi par rapport aux personnes vivant avec le VIH. Souvent, la personne dit qu'elle est sous traitement, mais qu'elle n'arrive pas à manger, qu'elle n'a pas d'argent pour pouvoir manger. La personne dit que je suis à plus de 100 km, à plus de 30 km de mon centre de prise en charge et ça me revient énormément cher que d'aller en consultation. Souvent, la personne dit, ah tiens, quand je vais en consultation, je dois préparer pour mon mari, mais je suis parti, il y a du monde, et je suis allé depuis 9h, depuis 8h, et jusqu'à midi, je ne suis pas encore reçu. Donc, il y a beaucoup de facteurs et il y a certains qui disent malheureusement qu'ils déplorent quelquefois des cas de discrimination aussi dans les centres de santé. C'est pas très agréable à dire.
C'est pas agréable, oui, parce qu'aujourd'hui on ne devrait plus parler de stigmatisation, surtout concernant le personnel de santé.
Oui, oui, c'est vraiment ça. Il faut agir sur toutes ces difficultés-là.
Nous remercions Israël Ganoé qui était au micro de nos partenaires de Radio Côte d'Ivoire.
Quelqu'un l'a vécu, voici son témoignage.
En sortant du circuit des soins et surtout en cessant tout traitement, les perdus de vue mettent directement en danger leur propre santé. En effet, l'arrêt du traitement entraîne à moyen terme l'augmentation des virus dans l'organisme et la vulnérabilité face aux maladies opportunistes. Dans certains cas, les patients qui avaient commencé à prendre le traitement avant de l'interrompre peuvent développer la résistance aux antirétroviraux. Écoutons les observations du docteur Frank Kassissa. Il est médecin généraliste à Beni, en République démocratique du Congo. Il a répondu aux questions de notre correspondant dans le Nord Kivu, Erikas Mouissi.
Si la personne est éligible pour être soumise au traitement antirétroviraux, alors quand il n'est pas sous traitement, les conséquences maintenant là sont énormes. Parce que l'objectif premier des traitements antirétroviraux, on le sait très bien que ce ne sont pas des traitements curatifs, mais ce sont des traitements pour arrêter la multiplication et que la personne soit aussi ait la chance de vivre le plus longtemps possible malgré les virus.
Alors pouvez-vous aussi nous expliquer comment et pourquoi le VIH est un virus qui se multiplie quand on arrête à prendre les ARV?
Les ARV sont des traitements qui ne sont pas curatifs. Ça retarde juste l'évolution biologique du virus dans le corps humain. Ces virus ont une capacité de se multiplier dans le corps une fois atteint la cellule humaine. Ça peut se multiplier, on dit, la théorie nous dit, de 1 à 100 milliards types par jour. Alors, les traitements antirétroviraux, c'est pour diminuer cette multiplication et maintenir une charge virale qui ne va pas être nocif à la personne qui vit avec le VIH-Sida. Donc c'est un virus qui est compliqué, qui a ses méthodes de multiplication bizarres, qui ne permet pas aux scientifiques jusqu'à présent de trouver des remèdes adéquats.
Alors peut-on aussi conseiller l'automédication à quelqu'un qui est séropositif? Y a-t-il un risque à prendre les ARV sans faire un suivi médical?
Non. On ne peut pas conseiller, à moins qu'il soit un personnel soignant, un médecin, qui maîtrise mieux ces molécules-là. Ce sont des molécules qui sont compliquées, avec beaucoup d'effets secondaires, qui a beaucoup d'intermédications avec d'autres produits. Les gens qui sont sous ARV sont soumis à des suivis dans une structure bien équipée ou une structure qui a des personnels bien formés pour manipuler ces molécules.
Et les séropositifs ont-ils une fréquence de visite précise dans les hôpitaux? Par exemple, ceux qui vivent loin des hôpitaux, par exemple, peuvent-ils espacer leurs visites et faire des stocks d'ARV pour venir à l'hôpital quand ils ont les moyens?
Bon, là, c'est un programme qui a déjà été dans le pays, par exemple. Il y a un programme pour ça. Je pense que par rapport aux distances et tout, tout est prévu pour gérer les PVV. Ceux qui sont déjà répertoriés, et ils sont éligibles sous les antirétroviraux, il y a une fréquentation bien paramétrée pour tous ces gens-là.
Est-ce que dans les hôpitaux dans lesquels vous avez travaillé ou que vous connaissez, il y a des fichiers des séropositifs et les moyens de les contacter quand ils ne suivent plus leur traitement?
Voilà, il y a des personnels qui sont chaque fois formés pour ça. Il y a des fichiers hein, qui pourraient être manuels ou électroniques. Ces gens-là sont suivis avec leurs adresses, leurs numéros de contact et tout. Ils sont bien suivis pour ces traitements-là.
Et pour finir justement, quel conseil pouvez-vous donner à ceux qui nous écoutent actuellement et qui n'ont pas plus suivi justement des soins depuis longtemps?
Comme conseil, je dirais, pour ceux qui ne sont pas encore atteints, il faut juste s'éloigner des facteurs prédisposants au VIH. Entre autres, utiliser toutes les méthodes pour se prévenir, soit préservatif, abstinence, fidélité, tout et tout, tout ce qu'on nous dit là. Mais pour les personnes qui sont déjà atteintes et qui sont déjà soumises sous antirétroviraux, hein, on va leur conseiller, s'ils veulent bien voir leur espérance de vie augmenter, ils doivent se soumettre et être disciplinés par rapport à ce traitement qui est un traitement à vie.
Nous remercions le docteur Frank Kassissa pour toutes ses explications.
VOA Afrique, votre santé, votre avenir.
Votre santé, votre avenir, un magazine sur votre bien-être. Vous avez des questions sur votre santé, vous voulez prévenir vos maladies, les soigner à temps.
Quelle alimentation adopter pour une vie saine? Comment bénéficier des programmes initiés par vos gouvernements ou des ONG dans vos pays?
Suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique avec Rosine Numézéro
et Mohamedou Oumpa, samedi à 8h30, temps universel.
Votre santé, c'est votre avenir.
Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond.
Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Notre consultant, le docteur Armand Genkap, a répondu à vos questions. Le docteur Armand Genkap est médecin urgentiste et praticien au Centre hospitalier universitaire de Soissons, en France.
Bonjour docteur, mon frère a 10 ans et fait encore pipi au lit. Est-ce que c'est normal docteur? Jusqu'à quel âge peut-on s'arrêter de faire pipi au lit? Qu'est-ce que je veux faire pour mon frère?
Ben, il faut dire que faire pipi au lit en médecine, ça s'appelle l'énurésie. En fait, c'est une façon de faire pipi de façon complète, de façon involontaire surtout, de façon inconsciente, et ceci pendant le sommeil de l'enfant. Le contrôle physiologique de ce sphincter vésical-là qui permet d'éviter de faire pipi s'acquiert à partir de 5 ans. Donc, on va effectivement dire qu'un enfant souffre du fait de faire pipi au lit lorsqu'il continue à faire pipi au lit au-delà de l'âge de 5 ans. En dessous, c'est très difficile d'en parler parce qu'il y a des enfants qui vont être propres, comme on dit, la nuit très précocement, mais il y a d'autres qui vont être propres la nuit tardivement, mais à partir de 5 ans, on peut constater que c'est une anomalie. Là aussi, on a 10 à 15% des enfants de 5 ans qui font encore pipi au lit. Et lorsqu'ils ont 8 ans, ce chiffre tombe à 6 à 8%. Et lorsqu'ils ont plus de 8 ans, à savoir 10 ans comme le frère de l'auditeur qui appelle, ce chiffre tombe entre 1 et 2%. Mais il faut avouer que progressivement, l'enfant va connaître la maturité de sa vessie, à savoir qu'il va réussir à contrôler sa miction la nuit dans son sommeil du fait de cette maturité vésicale-là avec l'âge. Toutefois, l'auditeur ne précise pas si le fait de faire pipi au lit est quelque chose de permanent, à savoir toutes les nuits, ou si c'est quelque chose d'épisodique. En général, lorsque l'enfant fait pipi au lit de façon permanente, là, on est vraiment en présence d'une énurésie maladie, à savoir d'une immaturité vésicale qui va se manifester effectivement par des incontinences nocturnes toutes les nuits. Mais si cet acte-là survient de façon épisodique, à savoir que ce n'est que de façon exceptionnelle que l'enfant fait pipi au lit, là, il faut aller chercher une autre cause. En général, les causes sont plutôt des causes d'ordre psychologique. Il y a peut-être un trouble psychologique dans la famille, il y a peut-être quelque chose qui bouleverse psychologiquement l'enfant. Et à ce niveau-là, on se trouve en présence vraiment d'une énurésie d'origine psychologique. Quoi qu'il en soit, le conseil que je peux donner à notre auditeur, dans un premier temps, c'est déjà le rassurer en disant que son frère ne continuera pas à faire pipi au lit. Au bout du compte, cette vessie-là connaîtra sa maturation et il fera de moins en moins pipi au lit. Mais il faudrait quand même qu'il amène son frère consulter un médecin afin qu'il puisse déterminer si la cause est une cause maladie du fait d'une immaturité vésicale. Il y a effectivement des traitements qui existent qu'on peut donner à l'enfant pour qu'il puisse avoir moins envie de faire pipi au lit. C'est des médicaments qu'on donne contre l'incontinence nocturne de l'enfant. Et c'est un médicament qui va accélérer la maturation vésicale. Par contre, si c'est d'ordre psychologique, bon, bien évidemment, il faut un suivi psychologique. Dans l'attente, les conseils que je peux donner à notre auditeur, c'est que dans un premier temps, le soir, il faut éviter de faire boire cet enfant-là dans les heures qui précèdent le fait qu'il va aller au lit. Il faut éviter de le faire boire des boissons. Et surtout, il faut absolument l'amener faire pipi avant qu'il ne se couche. Voilà les deux mesures qui vont lui permettre d'éviter de faire pipi au lit en attendant une éventuelle consultation médicale pour préciser exactement la cause. Voilà ce que je pouvais dire à cet auditeur.
Bonjour docteur, il m'arrive d'avoir des fois des sensations très étranges au niveau des jambes, comme si je recevais une décharge électrique. Mais des amis que j'ai consultés, à qui j'en ai parlé, m'ont parlé des crampes. Alors si c'est le cas, que dois-je faire? Est-ce normal d'avoir des crampes même lorsqu'on vient de faire une marche? Et c'est très courant chez moi.
Ce que je peux dire à cette auditrice, si c'est des crampes, c'est qu'elle ressent une espèce de contracture musculaire soudaine, incontrôlable, douloureuse, et qui très souvent sont transitoires au niveau de ses jambes. Ce qu'elle ressent un tout petit peu comme étant des décharges électriques. Très souvent, ces contractures sont sans gravité. Mais toutefois, il faut connaître les causes parce que les causes peuvent être multiples. La cause la plus fréquente en général de cette sensation de contracture, cette sensation de crampe au niveau des jambes, c'est souvent la déshydratation. C'est parce qu'on est déshydraté et on a fait un effort physique qui se manifeste effectivement par une contraction musculaire involontaire et soudaine de ce muscle-là, dont la déshydratation. Mais il n'y a pas que la déshydratation, il y a d'autres causes qui peuvent expliquer cette sensation de crampe au niveau des jambes. On a notamment des troubles métaboliques, un manque de calcium, un manque de magnésium, un manque de potassium, un manque de phosphore, peuvent se manifester par une sensation de crampe au niveau des jambes. Il y a aussi une autre cause qui est non négligeable, c'est les personnes qui vont souffrir d'une maladie des artères, qui peut être la complication d'un diabète, qui peut être la complication d'une hypertension artérielle, qui peut être la complication éventuellement d'une dyslipidémie. Ça se manifeste par des artérites, une artériopathie par des artérites. Il y a aussi des maladies des veines, les varices. Les varices, mais là, cette fois-là, on a des crampes, mais qui sont plutôt associé à des jambes lourdes. Quoi qu'il en soit, moi je conseille à cette auditrice de consulter un médecin pour qu'il puisse vraiment faire le diagnostic exact, la cause, le diagnostic étiologique. Mais dans l'attente, moi je lui conseille surtout de bien s'hydrater, de boire beaucoup d'eau, surtout avant, pendant et après tout effort, y compris pendant la marche, qu'elle s'hydrate bien, qu'elle boive suffisamment de l'eau, qu'elle fasse une bonne hydratation. Et c'est comme ça qu'elle pourra limiter un tout peu cette sensation désagréable qu'elle a au niveau des jambes. Voilà ce que je pouvais répondre à notre auditrice.
N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des commentaires, contactez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Par ailleurs, regardez la version télé de Votre Santé, Votre Avenir qui est maintenant diffusée sur cette page Facebook, sur le site web voafrique.com et sur nos télévisions partenaires.
C'est ici que prend fin Votre Santé, Votre Avenir. Cette édition était consacrée à la lutte contre le VIH-SIDA et le phénomène des perdus de vue. Pour en parler, nous avons reçu comme invité Israël Ganoué, secrétaire général du réseau ouest-africain des organisations de personnes vivant avec le VIH. Avec lui, nous avons essayé de comprendre pourquoi certains séropositifs disparaissent des circuits de soins. Nous avons aussi examiné les pistes pour combattre ce phénomène. Nous avons également écouté le docteur Franck Kassissa, médecin généraliste à Beni, en République démocratique du Congo. Il nous a expliqué les conséquences sanitaires pour ceux qui arrêtent leur traitement. Nous leur disons tous merci.
Nous disons disons également merci à Firmin Koyaouida qui était là avec nous pour vous présenter les événements qui font l'actualité santé. Un grand merci à nos différents correspondants RDC, Gabriel Nina à Lubumbashi, Béro Matanda à Kinshasa et Erika Soumouissi à Beni qui ont aidé à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Tchèque Thierry et de Karl Starin qui était à la console. À la présentation, vous étiez avec Rosine Mounezero et j'étais en compagnie de
Mamadou Oumfa.
Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car
votre santé, c'est votre avenir.
À très bientôt.
C'était Votre Santé, Votre Avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.